Bonsoir à tous. Nicolas Hulot, accusé de viol et d'agression sexuelle. La justice ouvre une enquête préliminaire. Au moins 6 femmes accusent l'ex-animateur et ancien ministre pour des faits qui auraient été commis entre 1989 et 2001. Ce que Nicolas Hulot conteste, les précisions dans un instant. Un premier cas du nouveau variant baptisé Nu, détecté en Belgique. Premier cas confirmé en Europe. Il s'agit d'une personne venant de l'étranger et qui n'était pas vaccinée. Les experts de l'OMS sont réunis depuis la mi-journée pour déterminer s'il s'agit d'un variant préoccupant ou non. Dans ce journal, nous irons également à Londres après l'annulation par Gérald Darmanin de la participation du représentant britannique à une réunion de crise sur les migrants prévue dimanche. Dialogue rompu en riposte aux propos sur Twitter de Boris Johnson demandant à la France de reprendre les immigrés arrivant en Grande-Bretagne. Le procès des attentats du 13 novembre avec les auditions des enquêteurs belges, auditions bousculées à la barre par les parties civiles. Et puis Louise Labbé entre à la Pléiade. La poétesse pourrait bien n'avoir jamais existé. Ilana Mariusen nous expliquera tout en fin de journal.
France Inter.
On l'a appris dans l'après-midi après la diffusion hier soir d'une enquête dans l'émission Envoyé spécial mettant en cause Nicolas Hulot pour des faits d'agression sexuelle et de viol, notamment à l'égard d'une victime mineure. Le parquet de Paris annonce aujourd'hui l'ouverture d'une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle contre Nicolas Hulot. Bonsoir Jean-Philippe Degnaud.
Bonsoir Frédéric.
Les investigations ont été confiées à la Brigade de protection des mineurs.
Oui, cette enquête s'appuie sur le témoignage de Sylvia qui racontait hier soir sur France 2 avoir été abusée alors qu'elle avait 16 ans par celui qui était à l'époque producteur sur France Inter. Elle racontait qu'à la fin d'une émission à la maison de la radio, Nicolas Hulot l'avait raccompagnée en voiture et l'avait forcée à un rapport sexuel, qu'elle était tétanisée, qu'elle n'avait pas porté plainte et n'en avait parlé à personne, pensant qu'on ne l'aurait jamais cru. C'était en 1989. Ces faits, de toute façon invérifiables aujourd'hui, sont désormais prescrits, mais l'enquête ouverte sur cette base pourra éventuellement susciter d'autres témoignages concernant, pourquoi pas, des faits plus récents dont l'ancien animateur vedette serait à l'origine.
Alors, est-ce que cela veut dire, Jean-Philippe Degnaud, que l'enquête va être menée à son terme?
Alors, disons que le parquet peut, avant de prononcer un classement sans suite pour cause de prescription, le parquet peut engager des recherches, entendre les parties, voire les confronter, vérifier, comme l'a fait France 2 d'ailleurs dans son enquête journalistique, la vraisemblance des accusations portées contre Nicolas Hulot, et voir si ces premières libérations de la parole peuvent en entraîner d'autres. Puis, au moment du classement sans suite, le parquet pourra très bien, comme il l'a fait dans l'affaire Baupin, indiquer que les faits sont prescrits, même si certains d'entre eux auraient pu être qualifiés pénalement. Une précision qui constituerait une sorte de réponse judiciaire aux femmes qui se disent victimes de Nicolas Hulot.
Jean-Philippe Degnaud, merci. Et cette nouvelle affaire qui secoue cette fois l'Église de France encore. L'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, Michel Aupetit, a présenté aujourd'hui sa démission au pape après des révélations sur son comportement ambigu avec une femme. Selon le magazine Le Point, Monseigneur Aupetit aurait entretenu une relation avec une femme en 2012. Il avait initialement réfuté ces révélations. Monseigneur Aupetit a proposé au pape de lui remettre sa démission par un courrier envoyé cette semaine, affirme le diocèse de Paris. Seul le pape peut décider ou non d'accepter ou de rejeter cette démission. Nous reviendrons dans le journal de 19h sur cette démission présentée au pape par Monseigneur Aupetit.
Jamais un nouveau variant du coronavirus n'avait provoqué autant d'inquiétudes depuis le fameux Delta.
Oui, ce nouveau variant baptisé Nu en Europe, potentiellement très contagieux, a été détecté en Afrique du Sud et un premier cas a été identifié en Belgique. Premier cas confirmé en Europe, selon les médias belges, c'est une jeune femme qui a développé des symptômes 11 jours après avoir voyagé en Égypte via la Turquie, sans aucun lien avec l'Afrique du Sud ni aucun autre pays du sud du continent africain. Ce variant Nu a aussi été signalé au Botswana, à Hong Kong ainsi qu'en Israël, plusieurs pays européens dont la France ont suspendu aujourd'hui les vols en provenance d'Afrique australe. Et cet après-midi à Genève en Suisse, l'OMS a expliqué qu'il faudra plusieurs semaines pour mieux comprendre le nouveau variant et savoir s'il est plus dangereux et plus résistant au vaccin. Mais pour l'OMS, il n'y a pas lieu pour l'instant de prendre des mesures de restriction au voyage. Sur place à Genève, Jérémy Lanche.
Un groupe d'experts chargé de suivre l'évolution du Covid est réuni depuis ce midi en urgence dans les locaux de l'OMS et pour certains en visioconférence. Objectif, déterminer si le nouveau variant est un variant dit d'intérêt ou bien un variant préoccupant. C'est cette catégorie qui inquiète les épidémiologistes parce qu'ils peuvent être plus transmissibles ou provoquer des symptômes plus graves, voire réduire l'efficacité des vaccins. comme c'est déjà le cas avec le variant Delta, le porte-parole de l'OMS, Christian Lindmeier.
Les premières analyses montrent que ce nouveau variant possède de nombreuses mutations qui nécessitent d'être mieux étudiées. Cela va prendre plusieurs semaines pour comprendre l'impact qu'il pourrait avoir. Les chercheurs travaillent pour comprendre ce que ces mutations veulent dire sur la transmissibilité et la virulence du Covid et les conséquences potentielles sur le dépistage, les traitements et les vaccins.
La vitesse avec laquelle le variant a été détecté par des chercheurs en Afrique du Sud il y a 2 semaines montre cependant que le système de surveillance fonctionne, estime l'OMS. L'OMS qui n'appelle pas, pour le moment en tout cas, à des restrictions supplémentaires pour les voyages. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
Les violences en Guadeloupe et en Martinique, avec en Martinique un 5e jour de grève générale et 1/4e nuit consécutive de violences sur l'île. Il y a encore eu de nombreux affrontements l'année dernière entre des émeutiers et les forces de l'ordre. 10 policiers ont été blessés par des tirs, selon la police. Des journalistes ont également été visés par des tirs à Fort-de-France. Reporters sans frontières demandent aujourd'hui que les journalistes soient davantage protégés. On retrouve en direct de Fort-de-France notre envoyé spécial, Jérôme Val. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir Frédéric.
Le mouvement est aujourd'hui dans l'impasse et ses violences récurrentes commencent à lasser et à inquiéter de nombreux habitants.
Oui, ils sont fous, nous a lancé tout à l'heure un homme qui passait devant une carcasse de voiture brûlée, un barrage. Ce mouvement, lancé au départ par les syndicats, s'est transformé en un cycle de violences répétées, inadmissible pour cette habitante de Casse-Pilote.
Qu'ils manifestent, d'accord, chacun a le droit de dire oui, je suis pour, je suis contre. Mais mettre le feu, je sais pas pour du tout, ça apporte rien.
Des tirs, des incendies, des barrages, des magasins pillés, tout cela est de trop pour cette femme qui vit à Schœlcher, au nord de Fort-de-France.
Moi, en tant que Martiniquaise, je déplore tout ça et je suis vraiment triste et j'ai même honte de tout ça. Quelles que soient les raisons, il n'y a pas de raison de se comporter comme ça. Et vraiment, je reconnais pas mon pays, mon île, mais pas du tout.
Des revendications sur la fin du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale, le mouvement est devenu plus large, presque incontrôlable, regrette Mylène qui habite à Fort-de-France.
C'est pas dû à la grève pour les non-vaccinés, donc c'est un ras-le-bol des jeunes, puisque j'ai discuté avec eux, donc c'est un ras-le-bol, ça va plus dans ce pays.
Le racket quasi systématique des automobilistes sur les barrages est aussi l'un des motifs de défiance vis-à-vis des manifestants les plus violents.
Merci Jérôme Val en direct de Fort-de-France avec Sandrine Malon pour les moyens techniques. Et ce soir, le gouvernement repousse l'obligation vaccinale des personnels et soignants. Obligation vaccinale repoussée donc en Guadeloupe et en Martinique jusqu'au 31 décembre prochain.
Guerre des mots et dialogue rompu entre la France et la Grande-Bretagne sur la crise migratoire après la mort de 27 personnes survenues dans la Manche.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a décidé d'annuler sa rencontre avec son homologue britannique, Priti Patel, à la suite d'un courrier du Premier ministre Boris Johnson. Cette réunion devra permettre de définir les voies et les moyens de renforcer la coopération policière, judiciaire et humanitaire pour mieux lutter contre les réseaux de passeurs. Paris et Londres semblaient même avoir commencé à travailler ensemble, mais voilà, un courrier envoyé à Emmanuel Macron par Boris Johnson et diffusé sur Twitter par le Premier ministre britannique a considérablement durci aujourd'hui les relations entre les deux pays. Boris Johnson demandait à la France de reprendre les migrants arrivés illégalement en Angleterre depuis les côtes françaises. Ce soir, Londres demande à Paris de revenir sur sa décision et de rouvrir le dialogue, Laura Calmus.
La France et le Royaume-Uni font un pas en avant et 3 pas en arrière. Au soir du naufrage, Boris Johnson et Emmanuel Macron se sont parlé par téléphone. Ils avaient l'air déterminés à trouver une solution ensemble. Mais hier soir, le Premier ministre britannique publie sur Twitter une lettre envoyée à Emmanuel Macron. « Ce n'est pas sérieux », a répondu le président français. Inadmissible pour Gérald Darmanin, qui devait rencontrer son homologue britannique Priti Patel dimanche, mais qu'il a finalement désinvité. Boris Johnson assume complètement et ne regrette pas. Dans sa lettre, il propose de renvoyer en France les migrants arrivés illégalement sur le sol britannique. Boris Johnson a également demandé à ce que la police britannique patrouille aux côtés de la police française sur les plages françaises. Une proposition reprise ce matin dans la presse britannique avec des commentaires virulents. Une éditorialiste explique sur Sky News que les Français n'y arrivaient tout simplement pas seuls et que la police regardait les migrants cigarettes à la bouche et café en main, laisser partir les bateaux. Londres, Laura Calmus, France Inter.
Le procès des attentats du 13 novembre, procès ouvert depuis 2 mois et demi, la cour entend depuis hier les enquêteurs plusieurs Belges jusqu'au 9 décembre prochain. Des auditions contestées sur la forme par les parties civiles et certains accusés. Les enquêteurs belges témoignent en visioconférence et de manière anonyme. Et aujourd'hui, 5 accusés ne sont pas venus à l'audience. Bonsoir Charlotte Piré.
Bonsoir.
En direct de la cour d'assises spéciale de Paris, des auditions donc contestées sur la forme mais également sur le fond.
Et c'était des auditions très attendues à cette audience. Il faut dire que le travail des enquêteurs belges constitue une part très importante du dossier d'instruction. C'est sur base de leurs procès-verbaux que mon client est dans ce box, ont rappelé plusieurs avocats de la défense. Ceux-ci, mais aussi les avocats de partie civile et le parquet antiterroriste, les attendaient donc avec de nombreuses questions. Mais en guise de réponse, ce sont surtout des « ce sera développé ultérieurement par mes collègues » ou « je n'ai pas d'informations à communiquer sur ce point » ou encore « je n'en ai pas eu connaissance ». Dans la salle d'audience, l'agacement monte de toutes parts, particulièrement quand il s'agit de comprendre pourquoi. Alors que Brahim Abdeslam, frère aîné de Salah Abdeslam et membre du commando des terrasses, était signalé dès février 2015, qu'il a été entendu par les services de police belges après un séjour en Syrie, que son téléphone portable a alors été saisi, pourquoi ce téléphone n'a été analysé qu'en novembre 2016, soit un an après les attentats. Un téléphone dans lequel une conversation Facebook avec le coordonnateur de ces attentats aurait pu alerter les policiers belges. À la place, Brahim Abdeslam a été laissé libre, sans surveillance, et a pu en toute tranquillité poursuivre ses appels réguliers avec la Syrie depuis la cave de son café de Molenbeek.
Charlotte Piré, en direct de la cour d'assises spéciale de Paris avec Jérémy Thuil. 6 jours après la mort d'une ours dans l'Ariège, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Foix pour destruction d'une espèce protégée et pour chasse illégale dans une réserve. L'ours, accompagné de ses 2 oursons, avait attaqué un chasseur qui lui avait tiré dessus. L'homme participait à une battue au sanglier dans une zone interdite à la chasse, selon Léa Philippi, la substitut du procureur de Foix.
L'Office français de la biodiversité a également réalisé des investigations sur le cadre dans lequel ce tir s'est inscrit. Et je peux vous confirmer aujourd'hui que nous sommes bien dans le cadre d'une action de chasse dite de battue. Cette battue, elle a eu lieu au moins pour partie dans une zone qui est la réserve domaniale du Mont Valier. Cette zone fait l'objet de restrictions du droit de chasse et est régie par l'Office national des forêts. Ça signifie qu'en l'état des investigations, des infractions au code de l'environnement liées à l'interdiction de chasser sur le lieu des faits sont susceptibles d'être relevées.
Léa Philippi, substitut du procureur de Foix avec Pierre Emparan.
Pour terminer le conseil lecture de ce week-end avec une figure de légende de la poésie française.
Louise Labbé, dont les œuvres complètes font leur entrée dans la collection de la Pléiade aux éditions Gallimard. Louise Labbé, poétesse célébrée comme une icône féministe et sensuelle, pourrait bien n'avoir jamais existé. Ce serait une invention d'un groupe de poètes du XVIe siècle, ce qui n'enlève rien à la beauté de ses textes, Ilan Morioussef.
Il n'est jamais facile de déboulonner une idole. La professeure Mireille Huchon a essuyé bien des critiques lorsqu'au terme de plusieurs années de recherche, elle est arrivée à la conclusion que la poétesse Louise Labbé n'a sans doute jamais existé. Ce serait la création d'un groupe de poètes brillants, le résultat d'un jeu littéraire en quelque sorte.
C'est un nom de plume, je pense. Louise Labbé, c'est un nom de plume, c'est une créature de papier. Ils ont voulu créer une Sappho française à un moment où on retrouvait les poètes antiques. Ronsard, par exemple, se voulait le nouveau Pindare. Donc là, on a créé cette figure de la Sappho lyonnaise.
À la même époque, les Italiens aussi inventaient des figures de poétesse. Rien d'exceptionnel, dit Mireille Huchon, et tant mieux si cela permet d'en finir avec le fétichisme de l'auteur.
Je pense qu'on a une sorte de... préjugés qu'il faut toujours qu'il y ait un auteur et puis qu'on se fasse une figure de l'auteur. Mais ces vers, ils peuvent vivre par eux-mêmes. Puis vous avez tous ces jeux quand même sur masculin-féminin, vous avez un certain nombre de sonnets androgynes qui relèvent des amours homosexuels aussi. C'est très moderne, c'est éblouissant, je trouve. C'est vraiment un moment d'avant-garde. Il n'y a pas forcément besoin d'un nom d'auteur.
En définitive, une célébration du plaisir du texte.
Louise Labbé, les œuvres complètes publiées dans la collection de la Pléiade aux éditions Gallimard, Claire.
Eh ben merci beaucoup pour ce conseil de lecture. On vous souhaite un bon week-end, Frédéric. Des nouvelles du temps.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonsoir Elodie Calac.
Bonsoir à tous.
De la neige au menu ce week-end.
Oui, la perturbation arrivée par la Manche aujourd'hui glisse vers le sud et l'est. Elle va donner de la neige en bonne quantité en montagne ce soir et demain. Un peu de neige parfois jusqu'en plaine sur le nord-est. 1 à 3 cm attendus, parfois 5. Près de la Manche, c'est un ciel d'averse qui va s'installer dès cette nuit et se généralisera progressivement à l'ensemble du pays demain, avec des averses, parfois sous forme de grésil sur les côtes, de pluie et de neige mêlée sur la moitié nord et temporairement de neige seule, notamment des Hauts-de-France au nord-est. Et il neigera toujours à basse altitude en montagne.
Ce sera encore hivernal dimanche.
Oui, les averses persisteront à l'est ou sous forme de neige jusqu'en plaine sur le nord-est, à très basse altitude sur le massif central, sur les Alpes et vers 600 mètres sur les Pyrénées.
Nous voilà prévenus. Merci beaucoup Elodie Calac de Météo France.